L'homélie de ce week-end vous est présentée par le père Christian Robert, prêtre du diocèse de Cahors, doyenné de Serre-Dordogne.
Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Osez nous dire au terme de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2025, à travers les mots de l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Frères, je vous exhorte, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Franchement, fallait oser. En même temps, dans la première lecture, qui continue à nous déployer le livre d'Isaïe, tous ceux qui écoutent entendent. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Ce qui correspond, ni plus ni moins, à une des lectures de la nuit de Noël. Alors, peut-être pourrait-on penser que l'exhortation de Paul s'adresse en définitive simplement à ceux qui croient encore au Père Noël, après tout. Et du coup, avec un tel vœu pieux, il n'y a plus qu'à retourner se coucher. Heureusement qu'il poursuit à l'adresse de ses chers Corinthiens. Il m'a été rapporté à votre sujet qu'il y a entre vous des rivalités. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul. Moi, j'appartiens à Apollos. Moi, j'appartiens à Pierre. Moi, j'appartiens au Christ. » Il y a quelque chose de moins déprimant ou frustrant à lire que les chrétiens n'ont pas entendu les premiers conciles dits œcuméniques de l'Église pour se quereller et se diviser au sujet de ce qui convient de croire ou pas et de qui détient l'authentique message de la révélation. C'était déjà le cas du vivant des apôtres, alors que la révélation en question n'était même pas encore close. Alors, pour nous qui sommes héritiers de 20 siècles d'histoire théologique, ecclésiale, liturgique et sacramentelle, le retour à l'unité n'est pas une cause perdue d'avance. Alors que même la question du filioque plane encore, pour certains d'entre nous, sur le symbole de Nicée-Constantinople, dont nous venons de fêter le 1700e anniversaire. On en revient finalement toujours au même constat. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 manières de ne pas se comprendre. Alors, oui, prions, car l'unité est une grâce, un don de Dieu tel que même Jésus le Christ, en qui Dieu s'est fait homme, a prié pour elle dans sa prière sacerdotale, reprise par Jean au chapitre 17 de son évangile. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce testament spirituel de Jésus, au sens où il place le principal enjeu d'unité dans la crédibilité de l'annonce de l'Évangile au monde, est donc à relier au testament spirituel de Jean le Baptiste, évoqué dans l'Évangile de la semaine dernière. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. » Pour ce qui est de l'Évangile de ce dimanche, nous entendons aujourd'hui parler de l'arrestation de Jean le Baptiste, dans la droite ligne de la semaine dernière, qui évoquait le témoignage de Jean. « Moi, j'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. » Si on a pu être amené à penser qu'il s'agissait là d'une trace de l'une des multiples querelles entre les disciples de Jean et les disciples de Jésus, distinctes des querelles entre tenants de Pierre, de Paul et d'Apollos, l'évangile d'aujourd'hui nous conduit sur une toute autre piste, en nous laissant penser que Jésus, après son baptême par Jean dans le Jourdain et son séjour au désert peuplé de tentations, est rentré à Nazareth, qu'il n'a quitté qu'en apprenant l'arrestation de Jean. Dès lors, la tâche accomplie, le Baptiste pouvait logiquement avancer vers la place qui lui revenait, celle de plus grand des enfants des femmes, comme nous le dit le chapitre 11 de Matthieu, et de plus petit dans le royaume des cieux. Loin de jubiler et de crier de joie, cet événement, l'arrestation et l'emprisonnement de Jean, qui sonne le glas du ministère de ce dernier, va agir sur Jésus comme le véritable top départ de son ministère, avec un déménagement à la clé, de Nazareth à Capharnaüm, avec une sorte de passage de témoin dans les clous, un peu comme lors du passage de témoin dans une course de relais, où on fait équipe, même si l'exégèse retient ici ou là un dénouement parfois sensiblement différent. Loin de jubiler, Jésus comprend que son tour est venu, et il se met en route. Il aurait pu choisir de faire le tour des grandes capitales du Moyen-Orient de l'époque, dominées par la culture grecque et les armées romaines. Jérusalem, Antioche de Syrie, Damas, Alexandrie, pour annoncer la venue du royaume et baptiser dans l'esprit et le feu. Mais non, il a choisi un petit village de pêcheurs, au bord d'un lac, dans le pays de Zabulon et de Nephtali, dont Isaïe rappelle dans la première lecture que le Seigneur l'avait dans un premier temps couvert de honte, car connu pour être un carrefour des nations païennes. Et nous, qui sommes là aujourd'hui, jusqu'où sommes-nous prêts à le suivre sur le chemin peu reluisant, où rien, ni la légitimité, ni la notoriété ne sont acquises, pour bâtir avec lui sa maison? Chloé a vendu la mèche, nous dit Paul. Dès le départ, ce n'était pas gagné, et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. C'est pour cela qu'il faut prier et agir. Notre démarche synodale diocésaine, achevée en 2008, parlait d'une église des actes. Et cette parole, près de 20 ans plus tard, c'est toujours aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Amen.